Donc, ce matin, on va voir le sujet de briller. Briller, de Philippiens 2, 14. Briller. Qu'est-ce que ça prend pour qu'on puisse briller?
Avoir une lampe dans le cœur.
Avoir une lampe dans le cœur, d'être une source de lumière ou d'être un reflet de lumière, certainement. Mais ça prend la noirceur autour, autrement on ne le remarque même pas. Et on est dans un monde de ténèbres, et Dieu veut que ceux d'entre nous qui connaissons le Seigneur Jésus comme Sauveur, qu'on brille. On va tourner dans Philippiens chapitre 2, verset 14. Philippiens chapitre 2, verset 14. Désolé pour les feuilles, les pagines, la marge. J'ai pas remarqué tout de suite. J'ai imprimé et pas remarqué qu'il y avait un problème de marge. Donc là, il est trop tard. Philippiens 2, 14. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. On va prier. Seigneur Dieu, c'est toi qui es Dieu, c'est toi qui es tout-puissant, c'est toi qui es lumière. Seigneur Jésus, comme tu as dit, je suis la lumière du monde. Seigneur Jésus, on veut te glorifier pour être la lumière de ce monde. Et merci que c'est toi qui as porté la lumière dans nos cœurs. Pour ceux d'entre nous qui sommes sauvés, Seigneur Dieu, c'est toi qui as fait briller dans nos cœurs la lumière. Et Seigneur Dieu, tu nous demandes de briller donc de cette lumière, de ne pas la cacher, cette lumière. Et Seigneur Dieu, on te prie que tu puisses m'aider à bien exposer droitement le sens de ta parole. Touche les cœurs, si on a besoin de chacun. Seigneur, ceux qui sont toujours dans les ténèbres de leur cœur, on te prie qu'ils puissent, Seigneur Dieu, venir à toi même aujourd'hui. Seigneur, on te supplie, au nom de Jésus. Amen. Donc, de briller. Avant d'entamer les notes que vous avez, je voulais juste introduire un peu que briller, c'est par degré, hein, qu'on peut briller. C'est vraiment par degré. La luminosité, mais aussi à quel point est noir autour. Ça a dit de briller parmi cette génération perverse et corrompue. Est-ce que toute génération est pareille? Est-ce que toute société est pareille? Je suis en train de lire en ce moment un livre sur un peu l'historique de tous les conflits entre le monde occidental, l'Europe particulièrement, et le monde islamique. Et là, on voit bien qu'il y a, j'en parlerai plus la semaine prochaine, mais il y avait, encore aujourd'hui, il y a ISIS, avez-vous déjà entendu parler d'ISIS? Des djihadistes, des musulmans très zélés qui veulent prendre plus de territoire, qui veulent envahir, qui veulent se faire des esclaves, qui veulent faire que les gens se convertissent à l'islam, au bout de l'épée. S'ils refusent, ils sont tranchés à la gorge ou ils deviennent esclaves. Souvent, ce sont des groupes de personnes qui vont prendre des esclaves. Souvent, c'est pour les violer à volonté, à en faire des esclaves de ce genre-là, vous comprenez. C'est terrible. Et là, je lisais ça un peu à travers les guerres là, de 1100 à peu près à 1500 ans. Un livre qui parle de 8 héros qui ont su se lever pour combattre et défendre leur peuple contre cela. Et je l'ai jeté là-dessus. Parce que c'était une intrigue, la semaine prochaine, je vais en parler plus. Mais il y en a qui sont clairement très cruels. Ils vont se servir de la cruauté, ils vont se servir du mensonge. Ils vont tuer tout ce qu'ils peuvent, ils vont faire des esclaves ce qu'ils peuvent. Ils vont profiter d'une perversion totale à violer tous ceux qui peuvent. Il y en a d'autres qui vont se liguer avec eux par peur d'être envahis et par promesse. Il y en a d'autres qui vont se lever contre eux, mais ils ne vont pas proclamer la vérité de l'Évangile. Alors on a des degrés de ténèbres. Il y en a dans ce monde qui se battent pour la liberté. Pensez à la Deuxième Guerre mondiale, les Alliés ont cherché à défendre la liberté contre un régime très oppressif, pour le dire très moindrement cruel, que ce soit les nazis, que ce soit le régime japonais, c'était la tuerie, c'était pas de liberté, c'était tuer ceux qu'on n'aime pas, profiter, beaucoup de viols, etc. Et il y en a qui se sont levés contre ça, et c'est bien, avec du courage, avec aussi beaucoup de sacrifices. Et on apprécie ce sacrifice, parce qu'on a les libertés aujourd'hui qu'on peut apprécier. Mais encore là, ceux qui ont fait ce sacrifice-là, ce n'était pas nécessairement à la lumière de l'éternité, avec le besoin de faire un sacrifice pour que les gens puissent entendre l'évangile. Et là encore, il y a un manque. Peut-être que le degré de noirceur est beaucoup moindre pour ceux qui ont quand même certaines valeurs pour chercher à défendre la liberté et venir en aide à quelqu'un qui est tabassé. Certainement, c'est merveilleux. Il y en a dans ce monde qui font cela. Donc, même dans ce monde, il y a beaucoup de degrés de noirceur. Il y a ceux qui, comme vous connaissez aussi le parabole du Samaritain, du bon Samaritain, hein, quelqu'un qui descendait, puis là, il s'est fait tabasser par des voleurs, laissé pour mort. Ça, très, 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 très ténébreux. OK? Il y en a qui n'ont pas participé dans cette oppression et dans cette méchanceté, dans cette cruauté, mais ils ont passé outre. Ils n'ont pas, sont pas venus en aide. On pense à tout le mal que la Russie a envahi l'Ukraine depuis 2014. On l'oublie un peu, mais c'est pas juste depuis 2022. Beaucoup de pays, ils aident un peu, mais c'est par mesure. Hein. Il y a des pays qui n'attaquent pas l'Ukraine, mais ils laissent faire. Donc il y a toutes sortes de degrés. Mais aux plus aidants, ceux qui défendent, ceux qui se font mal prendre, est-ce que c'est vraiment pour leur donner l'évangile? Pas nécessairement. Et donc, ça, même s'il y a beaucoup plus, beaucoup moins de... C'est en contraste, ceux qui ici, qui défendent la liberté contre ceux qui sont le plus cruel possible. Très bien, mais ça ne va pas assez loin. Ce monde n'est pas le bout de la ligne. Ce monde n'est pas ce qui dure éternellement. Être plus confortable sur un bateau qui coule, à quoi ça sert? C'est pas suffisant de simplement dire « Je vais me lever et combattre le mal aussi terrifiant et terrible que cette cruauté » qui s'est manifesté, qui se manifeste et qui est encore là aujourd'hui. Il y a toutes sortes de places autour du monde, il y a toutes sortes de monde qui profitent d'autres et qui cherchent à rendre esclaves et profiter les gens et tuer, etc. Il y a encore beaucoup de mal, encore beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et il y en a qui se lèvent contre ça, mais ils ne vont pas assez loin parce qu'ils ne pensent pas au besoin ultime, c'est l'âme. Ce monde ne dure pas. Là, nous, en tant, pour ceux d'entre nous qui sont sauvés, là, maintenant, on brille. Ah, ben là, je le fais très, très, très... Et là, on brille. Mais encore là, je veux nous faire porter à l'attention que il y a des degrés de briller. Pensez à Lot. Est-ce que Lot brillait? Oui, Lot brillait. Très peu. Lot a choisi d'aller vivre dans une place très perverse. Lot quand même a averti. Bon, il ne s'est pas fait prendre très sérieusement parce que justement, il a choisi d'aller vivre avec eux, mais il a averti. Et il a aussi, quand il a cherché à avertir, les autres disaient « Hey, toi l'étranger, là, il savait que là, tu n'étais pas vraiment parmi eux, comme eux. » Lot brillait. Peut-être on va... mettre une petite lumière pour l'autre. Il brillait très 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 peu, mais un vrai chrétien, il va briller un minimum parce qu'il est différent. Quand Dieu sauve vraiment quelqu'un, il y a une différence. Et Dieu est fidèle, comme un Père céleste qui nous aime, il châtie ceux qu'il aime pour nous amener, comme il le dit, à un minimum de sanctification, parce que il y a une différence fondamentale avec ceux qui connaissent le Seigneur, et ceux qui sont de la lumière et ceux qui ne le sont pas. Mais Dieu ne veut pas qu'on brille à la lotte. Dieu veut qu'on brille à la pierre ou à la pole. Et c'est donc dans ce contexte-là qu'on va voir briller de Philippiens 2. Dans 2 Timothée 3, 1, il le dit, 2 Timothée 3, 1, qu'il y aura des temps difficiles. 2 Timothée 3, il dit au verset 1, « Sache que dans les derniers jours, page 908, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, aimant soi-même, littéralement, amis de l'argent, fanfarons, qui ne rien prendre au sérieux, c'est juste des jokes à travers la journée. Hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Alors nous vivons dans un temps comme ça, dans une génération perverse et corrompue, comme dit Paul, Pierre, dans Actes 2, 40, il dit « Sauvez-vous de cette génération perverse et corrompue. » Ben, si Pierre le disait à ce moment-là, ben, combien plus il le dirait encore aujourd'hui. Alors, Dieu nous appelle à briller, premièrement, par vos actes. Briller par vos actes. Briller par vos actes. Dans Éphésiens chapitre 2, il le dit, nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Il le dit dans Matthieu 5, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Vos bonnes œuvres. Vous n'avez pas de stylo? Vous n'avez pas de feuille? Ah ben. Oui. Donc vos bonnes œuvres, par nos actes. Dieu, quand il nous sauve, c'est pour qu'on puisse commencer à briller par nos bonnes œuvres. Qu'on puisse faire des œuvres différentes, pas des œuvres égoïstes, pas des œuvres qui ne servent à rien, mais des bonnes œuvres, et qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. 1 Pierre 2, 11 et 12. 1 Pierre 2, 11 et 12. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Et lisez avec moi le verset 12. « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. » Alors Dieu veut qu'on brille par les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres. De s'impliquer à faire des choses qui sont utiles pour le Seigneur, utiles pour notre voisin, utiles pour notre famille, utiles, des bonnes choses. Il ne faut pas donner raison aux gens de parler mal de nous, mais on peut s'attendre. Ils vont parler en mal de nous quand, à un moment donné ou à un autre, quand on suit le Seigneur. Ne nous laissons pas être découragés. Continuons à faire le bien. Ayons un bon témoignage. Même si notre réputation peut être entachée par des calomnies, c'est notre témoignage de vraiment qu'est-ce qui est fondé, de laquelle on devrait se soucier. Alors, il le dit dans 1 Pierre 3, 14 et 17. Ça dit d'ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, vous seriez heureux, n'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Ayant une bonne conscience, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Alors, si on a accepté Jésus-Christ comme notre Sauveur, est-ce que nous remplissons nos vies à chercher à faire des bonnes œuvres, faire le bien, faire ce qui est utile, productif et bien et bon? Donc, continuons à faire le bien, de rendre le bien pour le mal. Quand les gens nous font le mal, ben, faisons le bien. Continuons à faire le bien. Il le dit d'ailleurs dans Matthieu 5, 43 et 47. Hein? Est-ce que le bien, c'est simplement quelqu'un nous fait du bien, ben, on va lui donner du faire du bien en retour. Ça, c'est pas difficile. C'est quand quelqu'un nous fait du mal et que là, on est gentil en retour. Ah, ça parle. Ça parle fort. Donc, Matthieu 5, 43, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Qui veut lire 44 et 45? Un volontaire pour 44 et 45? Matthieu 5, 44 et 45. Oui, Alexandra. Mais moi, je vous dis.
Ok, mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes.
Eh bien, quelqu'un vous fait du mal, il prend toujours votre place, vous avez peut-être une place assignée pour votre tour, il le prend. Bon, vous cherchez une autre place, c'est beaucoup plus loin, il faut marcher plus loin, mais... Puis là, vous le voyez sur la rue, puis il échappe quelque chose. Je ne vais pas lui ramasser, franchement, lui, il prend ma place. Non. Ramassez-le avec un bon souvenir, un sourire. Tiens, monsieur, j'ai échappé ceci. Merci. On rend le bien pour le mal. On aime son ennemi, pas au sens de prendre plaisir à ceux qui n'aiment pas Dieu. Ce n'est pas dans ce sens-là d'aimer être avec ceux qui maudissent Dieu. Ce n'est pas dans ce sens-là. On va vouloir être avec eux pour leur parler, mais pas pour se joindre à ce qu'ils font. Mais aimer ses ennemis, c'est de bien les traiter et de leur montrer un désir personnel, un sincère, pour leur bien. 46 et 47, qui veut lire 46 et 47? Oui.
Si vous aimez ce qui vous aime, que vous pensez que vous êtes? Les publicains aussi n'agit-il pas de même? Et si vous servez seulement vos frères, que faites-vous des païens? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même?
Alors,
très
bien. C'est vrai, dans le texte, il n'est pas écrit à 48. Très bien. Soyez donc parfait comme votre Père céleste est parfait. Complet dans ce sens-là, mature. Donc, premièrement, de briller par ses actes. Deuxièmement, briller par vos... habits. Brillez par ses habits. Dieu parle de vestimentation. Il le dit dans Tite 2, d'honorer. D'honorer Dieu, d'honorer la sainte doctrine par notre manière de vivre. Verset 2, Tite 2, 2. Ça dit que les vieillards doivent aussi être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans la charité, dans la patience. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. N'être ni médisantes, ni à donner au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à être retenues chastes. Ce ne sont pas des caractéristiques qui sont à la mode aujourd'hui, hein, d'être habillé avec pudeur, d'être chaste, d'avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Mais Dieu nous commande cela. Dieu parle dans Proverbes 7, 10, Et voici, ça parle d'un jeune homme qui fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée. Donc, une manière de se vêtir qui attire l'attention sur son corps pour dire à tout le monde, regardez, je suis disponible. Malheureusement, la mode d'aujourd'hui est comme ça quasiment. Et la société est tellement libertine que, bon, ça change, on peut s'habiller comme on veut, on peut provoquer comme on veut et attirer l'attention sur notre corps comme on veut. Mais Dieu ne veut pas ça pour nous qui sommes chrétiens. On doit briller par nos habits. Donc, que ce soit les vêtements courts, ok, décolletés ou les vêtements moulants. Donc, ils prennent la forme du corps pour attirer l'attention sur le corps. Moulant. Ou que ce soit les vêtements, donc, suggestifs. Dieu veut qu'on tende à pouvoir briller, se faire distinguer, non seulement par nos bons actes, nos bonnes œuvres, mais aussi par notre manière de nous vêtir, que ce soit avec pudeur, que ce soit avec modestie, que ce soit pas selon la mode du jour. Peut-être qu'on peut s'habiller sans penser à tout ça, mais Dieu veut qu'on réalise qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là et qu'est-ce qu'on communique de ce sens-là, même si on ne le fait pas par exprès, comme ce monde. On peut simplement s'habiller à la mode du jour, mais Dieu veut qu'on brille de ce côté-là. En parlant de vêtements, Adam et Ève, on le sait, ont été créés sans vêtements. Mais ils n'avaient aucune mauvaise pensée, ils n'avaient aucune manière de mauvaise pensée, ils n'avaient rien à cacher. L'aspect de sentir le besoin de se vêtir, c'est parce que Dieu, quand ils ont péché, ils avaient la connaissance du bien et du mal, et là ils avaient de quoi cacher. Et tout de suite, ils ont voulu se cacher. Quand Dieu nous sauve et nous amène au ciel, on ne va pas revenir à un point d'innocence. Pour l'éternité, on va être vêtu. On va toujours se rappeler que oui, on a péché, mais on a été recouvert de la justice de Jésus. On a été recouvert par un fin lin, des vêtements blancs. Donc Dieu parle de vêtements éternels, et c'est magnifique de penser à ce niveau-là. On pense à l'homme démoniaque. Vous avez l'exemple de Luc 8, 35. L'homme démoniaque, il était tellement possédé de démons. Les vêtements, ils s'en moquaient. Et c'était certainement pas la modestie. Mais une fois que Jésus l'a chassé de ses démons, et bien là ensuite, les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils trouvèrent l'homme de qui étaient sortis les démons, assis à ses pieds, vêtu et dans son bon sens. Hein? Dès que les démons étaient partis, ben là, à son sens normal, hey, qu'est-ce que je fais là? Il y a une histoire qui m'a été racontée par un missionnaire dans le pays voisin, d'une tribu qui a été atteinte par l'évangile, qui a été rejointe par des gens qui partageaient l'évangile. Il y avait des Amérindiens, des tribus amérindiennes au Suriname, qui quand ils s'étaient convertis, il y en a plusieurs qui avaient à cœur d'aller un peu plus loin, au-delà de la frontière, au Brésil, et d'atteindre des tribus encore qui n'avaient pas encore entendu l'évangile. Et l'histoire, c'était dans les années 60-70, de ce qui m'avait été raconté, 80 peut-être même. Ces personnes-là, quand ils arrivaient là, ils leur ont partagé l'évangile. Vous savez que dans certaines tribus, l'aspect vestimentaire est très minime. Hein, peut-être juste simplement quelque chose pour cacher ces parties privées. Et avec le temps, quand cette tribu-là, plusieurs se sont convertis, eh bien là ensuite, c'était pas pour devenir européen, mais pas dans ce sens-là, mais simplement dans le but de, il y a un sens de modestie. Vous êtes venu avec l'évangile, mais vous avez aussi des vêtements. Pouvez-vous nous en partager? Vous pouvez retourner là où ce que vous allez, vous en avoir d'autres, mais pouvez-vous nous en prêter, pour qu'on nous en donner, pour qu'on puisse être un peu plus modeste. Et bien sûr, ces gens, ces chrétiens-là qui ont partagé l'évangile dans ces tribus-là ont partagé leurs vêtements. Les autorités brésiliennes sont arrivées un peu après ça et ils veulent les garder souvent dans leur manière de vivre sans leur laisser le choix de comment changer ou pas. Et ils les ont retiré leurs vêtements et disent « Hey, qui vous a amené ça ?» etc. Et c'est triste. C'est triste. Les tribus à travers le monde devraient pouvoir voir leurs besoins devant Dieu et choisir qu'est-ce qu'ils changent ou qu'est-ce qu'ils ne changent pas de leur culture. Mais quand on se convertit, il y a un sens que là, on veut grandir dans notre modestie. Et certainement, les chrétiens qui ont partagé l'évangile, ils brillaient par leurs habits, et les chrétiens qui se sont convertis, ils ont cherché de commencer à être soucieux de leur sens de modestie. Comme cet homme qui a été délivré de ses démons, on le retrouve vêtu. Parce que soudainement, oui. Alors, pour l'éternité, comme j'ai dit, il y aura le sens de... On va être vêtu pour l'éternité avec un vêtement qui réfléchit toujours, qui resplendit sur la grâce qui nous a été faite, la grâce de Jésus-Christ. Apocalypse 3, 4. « Cependant, tu as à ça quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs. » parce qu'ils en sont dignes. Apocalypse 3, 5, « Celui qui vaincra sera vêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacera point son nom de livre de vie, je confesserai son nom. » Apocalypse 3, 18, « Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. » Donc Dieu se sert aussi de l'aspect de la nudité pour mettre en illustration qu'on est manquant devant lui, non seulement aveugle dans ses péchés, non seulement mort dans ses péchés ou pauvre éternellement parlant, il veut nous rendre riches, il veut nous rendre vêtus et il veut nous donner la vue. Donc il se sert de cet aspect-là pour illustrer aussi le salut. Apocalypse 4, 4, autour du trône, je vis 24 trônes et sur ces trônes 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs. Et sur leur tête des couronnes d'or. Et Apocalypse 19, 14, enfin, ça dit les armées qui sont dans le ciel le suivait sur des chevaux blancs, revêtus de fin lin, blanc, pur. Et au verset 7 et 8, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, donnons-lui la gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée, il a eu été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur. C'est Jésus-Christ qui nous permet d'être habillés pour l'éternité. De vêtements blancs resplendissants. Donc, l'aspect de vêtements, ça tient à cœur, notre Dieu. Et donc, en termes de vêtements, ça communique des choses. Le pilote d'avion, pourquoi est-ce qu'il s'habille très très bien en son uniforme? Ça commande un respect, ça commande un sérieux. Il ne va pas prendre ça à la légère, piloter cet avion avec 300 personnes dedans. Hein, n'est-ce pas? Vous imaginez le pilote qui arrive tout délabré, et puis là, ils sont chaque fois à l'envers, puis il arrive tout ça, les gens disent je ne sais pas si je vais prendre cet avion-là aujourd'hui. Je n'ai pas l'impression qu'il va prendre ça trop sérieux. Mais vous remarquez, hein, ils sont toujours très très bien tenus parce qu'ils communiquent qu'ils prennent ça au sérieux. Ça communique. Donc, il y a toutes sortes de tenues pour différentes occasions. Et d'ailleurs, on arrive justement à trois principes fondamentaux pour les vêtements. Premièrement, appropriés au sexe. Si on est un garçon, on se dit un garçon. Appropriés au sexe. Qu'est-ce qu'on est? Qu'est-ce qu'on a été? On est né? C'est ce qu'on est. On est un garçon, on est une fille, on est un homme ou une femme. Et notre manière de nous vêtir devrait refléter donc la différence. Qui veut lire Deutéronome 22, 5? Deutéronome 22, 5, involontaire, oui, Marc Indy.
Une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme ne mettra point les vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, mon Dieu.
Alors, que les hommes s'habillent clairement en homme, et que les femmes s'habillent clairement en femme, et c'est bien. Cette société, elle encourage de plus en plus des vêtements unisexes, et c'est pas une bonne chose. Vous ne savez pas de différence. Donc, pour ceux d'entre nous qui sont chrétiens, qu'on brille de ce côté-là et qu'on ne se joigne pas à la mode du jour qui est en train de simplement, on s'habille comme on veut, pas besoin d'être modeste, pas besoin non plus d'être propre à, au genre, on peut s'habiller comme on veut. Non. Deuxièmement, approprié à l'événement. Il y a dans la Bible une expression « cindre serein ». « Saint-terrain », la Bible dit. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que, bon, et les hommes avaient des robes différentes. Les femmes, à ce moment-là, c'était évident, c'était des vêtements d'hommes ou des vêtements de femmes. Mais les hommes, dans leur tenue normale, ils ne pouvaient pas nécessairement courir et se battre. Cindre serein, c'est de prendre ses robes et de les attacher avec sa ceinture pour que là, on peut bouger, on peut se battre, on ne va pas être... on ne va pas s'enfarger dans les vêtements. Cindre serein, ça veut dire qu'il y a une manière de s'habiller propre à l'événement. Si on fait de la course, si on fait un combat, ben on ne va pas s'habiller comme si on va à la maison de Dieu, par exemple. Et donc, il y a une... Et justement, ce principe-là, on le voit. Hein? Quand c'est temps du sport, ben on s'habille en sport. Quand c'est temps de venir pour une célébration spéciale, un mariage, on ne va pas s'habiller n'importe comment. C'est un événement spécial. Quand on vient à la maison de Dieu, on va s'habiller proprement. Est-ce que c'est la clé? S'habiller d'une certaine manière pour aller à l'église, puis c'est la seule chose qui compte. Pas du tout. Combien de gens voient qui vont à l'église, ils marchent quand je ramasse du monde et que j'en vois beaucoup à travers les rues qui marchent à leur église. Ben, j'en vois souvent, hein, ils sont très 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 bien habillés. Mais on sait que souvent, ces gens-là, hein, ils ont 36 enfants avec 36 différents pères. Mais du moment qu'ils sont bien habillés, que leurs enfants sont bien habillés, là c'est bien. Non, c'est pas l'idée. Mais quand même, même s'il y en a qui simplement, se fient simplement à l'habillement, ça ne veut pas dire que nous, on ne doit pas être approprié à l'événement. Et dans les églises, nous, on a des églises aux États-Unis qui nous soutiennent. Et parfois on voit la tendance, parfois dans les églises, peut-être pas nécessairement les nôtres, mais juste en visitant les églises, parfois la tendance c'est de devenir de plus en plus délabre, de venir à l'église n'importe comment. Bon, j'encourage toujours les gens à venir à l'église, peu importe comment ils sont, peu importe ce qu'ils ont. L'important c'est de venir entendre les paroles de Dieu. C'est pas comme ne viens pas si tu n'as pas de quoi assécher pour porter. Non, non, viens. En même temps, moi-même, parfois, vous le savez, parfois je porte une cravate, parfois je ne le porte pas, je le fais exprès. Parce que je ne veux pas que vous pensiez que la seule manière de pouvoir prêcher, c'est d'avoir une cravate. Et ce n'est pas la question. Mais vous savez, en général, je ne suis pas en short et en t-shirt. Mais vous m'avez déjà vu en short et en t-shirt. Parce qu'il y a un temps approprié pour tout. Donc, on comprend ce principe-là, approprié à l'événement. Et la troisième, approprié à l'événement, je ne l'ai pas écrit. Événement, approprié à l'événement, et le troisième c'est approprié à la bienséance, à la modestie. Et c'est là que quand on parle de je vois souvent les gens dans la rue qui marchent à leur église du coin. Ah, souvent, c'est des habits très chics, mais en même temps, c'est des habits souvent très provocateurs. Hein, les petites jupes avec des côtés, tout ça. Et c'est comme, bon, ils s'habillent approprié à l'événement, mais ils ne se soucient pas de la bienséance. Ils ont des modes... très suggestif. Donc, Dieu veut qu'on soit soucieux de cela. À Timothée 2, verset 9, je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresse, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres. L'important n'est pas, on va s'assurer que tout est parfait à l'extérieur, et on ne se soucie pas de l'intérieur. C'est l'intérieur qui compte. Ça ne veut pas dire que l'extérieur, on s'en moque, puis on va à l'église avec les cheveux tous les travers, parce que là, on n'a rien fait à nos cheveux, on s'est levé. Ça ne veut pas dire ça non plus. Mais l'emphase dans la Timothée 2, c'est que ce n'est pas à l'extérieur, tout bien, super bien à l'extérieur. Non, on se moque de l'intérieur. Non, c'est l'intérieur qui compte. Hein? On peut quand même se coiffer, on peut quand même avoir une certaine décence, sans y mettre l'importance. Ce n'est pas pour attirer le regard. Mais ça ne veut pas dire qu'on va être des délabrés. Donc l'important c'est l'intérieur, avec vêtu d'une manière décente, avec pudeur et modestie, dans cette emphase-là. Vous avez entendu l'expression l'habit ne fait pas le moine? Qui a déjà entendu ça? L'habit ne fait pas le moine. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai. Mais certaines choses à dire à ce niveau-là. Certaines choses à dire sur cette expression l'habit ne fait pas le moine. Justement, si l'habit fait penser que quelqu'un est un moine, quand il ne l'est pas, c'est trompeur. Alors, si quelqu'un s'habille en moine, mais la manière de se conduire, il n'est pas un moine, ben, c'est ça qu'on veut dire, l'habit ne fait pas le moine. Mais est-ce que ça veut dire que l'important, c'est pas grave l'habillement du moment qu'on est un moine? Non, l'idée, c'est qu'il ne faut pas être trompeur. Mais en même temps, n'oublions pas que, en passant, je parle de l'expression la vie ne fait pas le moine, pas pour encourager d'être un moine. Ok, comprenez-moi dans le contexte. J'utilise l'expression pour parler de l'expression, mais je n'encourage pas d'être moine. Premièrement, être moine, c'est basé sur une théologie qui est tortueuse et qui ne considère pas le vrai évangile de la grâce de Dieu. En plus, le but d'être moine, ce n'est pas une qui nous est donnée. Hein. Timothée, 1 Timothée 4, ça dit... Bah regardez 1 Timothée 4. 1 Timothée 4, 1 à 3, page 905. Ça dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits de séducteurs et des doctrines de démons par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure. Portant la marque de la flétrissure, ça veut dire qu'ils sont tellement faits des choses mauvaises que ça leur dérange même plus de le faire. Dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier. L'Église catholique, entre autres, il y a d'autres églises aussi qui enseignent la même chose, que oh, les clergés, il ne faut pas se marier. Ça, c'est pas de Dieu. 1 Timothée 3, juste le chapitre avant, il parle d'un des critères pour être dirigeant dans une église, l'évêque, le surveillant, c'est qu'il soit mari d'une seule femme et qu'il conduise bien sa maison, ses enfants, qu'il sache bien conduire sa maison. Si c'est pas c'est bien agir avec sa propre famille, ben comment s'il peut agir avec un autre groupe? Alors, pas se marier, c'est pas le critère de Dieu. Alors il dit prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Non, être moine, c'est pas dans la bonne direction. Bon, fin de parenthèse à ce niveau-là. Mais si les vêtements ne communiquent pas, pourquoi Satan et les siens ne se déguiseraient en ange de lumière? Satan se déguise en ange de lumière. Déguiserait. Pourquoi est-ce que Satan se déguiserait en ange de lumière? Alors, la vie ne fait pas le moine, je comprends l'expression, mais ça ne dit pas tout. Vous comprenez ce que je veux dire? Dieu ne veut pas qu'on s'habille d'une manière trompeur pour vraiment ne pas vraiment se soucier de l'intérieur, c'est de l'intérieur que ça compte. L'intérieur. Mais l'intérieur, quand on le prend soucieux, l'intérieur va se soucier aussi de briller par nos habits. Il y a une erreur.
C'est pas au pluriel déguiserait parce que c'est Satan et les siens.
Ah, Satan et les siens. Voyez-vous, j'ai oublié la grammaire de mot. Satan et les siens. Très bien, très bien. Le français, c'est pour toute occasion qu'on parle en français. Parfois, j'entends les gens qui disent ah, mais là, on est dans le cours de géographie, c'est pas grave, moi j'écris. Ton cours de maths, c'est pas grave, moi j'écris. Non, non, le français, c'est pour apprendre à parler dans toute la vie, de peu importe le sujet, à pouvoir bien l'écrire, bien le parler. Alors, merci. Même dans l'église, on a du français. Déguiserait, A-I-E-N-T. Très bien, j'avais oublié le sujet, c'est pas seulement Satan, c'est Satan et les siens. Merci pour cette note. Donc oui, Satan, il se déguise. Pourquoi? Parce que l'extérieur peut tromper. Dieu ne veut pas qu'on se fie simplement et qu'on se soucie seulement de l'extérieur. Non, il veut qu'on se soucie de l'intérieur, être vraiment ce qu'on est de l'intérieur. Mais quand on est soucieux de l'intérieur, on va aussi être soucieux, pour ces principes-là, de s'habiller fidèle à qui on est en tant qu'homme ou femme, fidèle à l'événement, approprié à l'événement qu'on fait, et finalement, d'une manière modeste et décente. Ensuite, briller, troisièmement, briller par vos...
attitudes.
Vos attitudes. Très bien. l'attitude. Et là, si vous arrivez à trouver le mot que j'écris sur la... Vous faites très bien. L'attitude, par vos attitudes, et là, quelqu'un va me dire,
il me manque quelque chose, le pasteur de mort, voilà.
Est-ce par vos attitudes? Ce qui sort de la bouche, qui veut lire Matthieu 5, 18 et 19? Je vais comprendre du retard. Qui veut lire Matthieu 5, 18 et 19? Ah, vous ne l'avez pas, excusez. Ah, mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui saoule l'homme. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Alors, oh non, j'ai sauté. Oui, là, je saute. J'ai sauté. Ça, c'est par les paroles. Là, je parle encore des attitudes. Il dit, faites toutes choses sans murmure, ni dispute, ni hésitation, ni donc de briller à contre-cœur en murmurant, ça enlève tout à l'attrait. Psaume 40. Ça, c'est un verbe intéressant que Dieu utilise ici. Beaucoup l'ont vu. Psaume 40, il est dit, j'étais dans une fosse de destruction, Dieu m'en a retiré, il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange de notre Dieu. Beaucoup l'ont vu. Pas juste entendu. Quand on chante de tout notre cœur, avec un sourire sur les lèvres, de tout notre cœur, ça se voit que hey, ce n'est pas simplement des paroles en l'air. Alors l'attitude, ça va venir rehausser ce qu'on dit. Ça va venir rehausser les actes. Ça va donner de quoi à voir et à prendre au sérieux ce que Dieu a fait dans nos cœurs, pour les gens qui le remarquent. Donc beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte et se sont confiés en l'Éternel. Ensuite, quatrièmement, briller par vos paroles. Donc, non seulement les murmures peuvent être en parole, mais au-delà de ça, toutes les paroles blessantes, les paroles qui diminuent les gens, plutôt que de les élever, de les encourager, les calomnies, les faux témoignages, etc., ça vient du cœur et ça sort de la bouche. Romains 3, leur gosier est un sépulcre ouvert. Leur gosier... Ils se servent de leur langue pour tromper. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. On sait, la plupart des gens, dans leur langage, ils utilisent le nom de Dieu en vain. Ils utilisent des gros mots, des paroles, etc. Et ça sort. Ça va se faire remarquer quand on a changé de parole depuis qu'on s'est converti. On n'utilise plus les mêmes expressions. On n'utilise plus le nom de Dieu en vain, etc. Les paroles vont changer. Les paroles. Et Dieu, c'est ce qu'il désire. Colossiens 4, 5. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Et c'est humblement qu'on doit vraiment chercher la face de Dieu pour dire Dieu, aide-moi, parce que mes paroles soient agréables à toi et à mon entourage, que par ma parole je puisse édifier. Éphésiens 4, 29. Je vois qu'on est un peu en retard sur le temps. Je vais juste finir là avec les dernières choses. Si on devrait briller par nos paroles, c'est pas simplement en évitant les mauvaises paroles et en donnant des paroles encourageantes, mais aussi c'est en portant la parole de vie, donnant l'évangile. En partageant l'évangile, qu'on participe vocalement, qu'on participe dans les bonnes œuvres à distribuer les gens et romains, les traités, donner les traités aux gens personnellement, etc. Mais qu'on porte la parole de vie, ça c'est briller. On va briller quand on donne aux gens ce qu'ils ont besoin d'entendre, l'évangile, la semence de l'évangile. On comprend, les gens vont pas nécessairement se convertir la première fois qu'ils l'entendent. On va semer, arroser, mais ils ne peuvent pas se convertir à moins d'en entendre parler. Comment est-ce qu'on va briller? On peut briller et on doit briller si on connaît le Seigneur par nos actes, nos bonnes œuvres, par nos habits, notre manière de nous habiller d'une manière qui est réflectif du changement que Dieu a fait dans nos cœurs, par nos attitudes et par nos paroles jusqu'à apporter la parole de vie, donner l'évangile aux gens. est-ce qu'on brille? Et à quel degré est-ce qu'on brille? Dieu veut qu'on brille de plus en plus pour lui. Si on ne brille pas, peut-être c'est parce qu'on ne connaît pas encore le Seigneur. Si vous êtes toujours dans les ténèbres, Dieu veut que vous veniez à lui, même aujourd'hui, un cœur repentant. Faites votre confiance en Jésus qui peut ouvrir la lumière dans votre cœur pour que vous puissiez commencer à briller. Seigneur Dieu, merci pour ta parole. On te prie de toucher les cœurs et d'habiter ta parole selon le besoin de chacun, le cas de chacun. On te prie. Merci pour ces principes de ta parole, Seigneur Dieu. On te prie au nom de Jésus. Amen.